Il y a plusieurs siècles de cela, des milliers de femmes furent accusées d'avoir baptisé avec le diable. Et en raison de ces accusations, elles furent humiliées, torturées et livrées aux flammes des bûchers. Qui étaient réellement ces femmes accusées de sorcellerie dont l'Église a dressé le bûcher entre le XIVe et le XVIIIe siècle? Et quelles furent réellement leurs croyances? S'agissait-il d'un culte à Satan, tel que les démonologues l'ont affirmé, ou alors d'une survivance païenne telle que le perçoivent les adeptes de la Wicca et du néopaganisme? Pour tenter d'y voir plus clair et répondre à toutes ces questions, sans tomber dans l'anachronisme, il convient d'étudier le sujet sur plusieurs angles. Le premier, et le plus direct, étant les sources littéraires, des procès en sorcellerie et les traités des principaux auteurs. Ce sont ces derniers qui ont édifié l'imaginaire du sabbat des sorciers. Les sources démonologiques telles que le tristement célèbre Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, ou encore la démonomanie des sorciers de Jean Bodin, présentent un portrait terrifiant de la sorcière. Elle y est présentée comme étant l'apôtre de Satan qui cherche à détruire la société chrétienne. Vient ensuite la perception moderne de ceux qui se revendiquent de la sorcellerie des campagnes des temps anciens. À cheval entre une vision romantique et une volonté de se reconnecter à un passé oublié, les Wiccans et les néo-païens voient dans la sorcellerie le vestige d'une religion antique qui aurait survécu dans la clandestinité et qui fut combattue par l'Église. Déjà au XIXe siècle, plusieurs auteurs ont popularisé la thématique, à commencer par Aradia ou l'Évangile des sorcières de Charles G. Leland et plus récemment The Witchcraft Today de Gerald B. Garner. Enfin, pour finir, il nous faudra présenter les pratiques réelles de la magie antique, le folklore, les anciens rites agraires et saisonniers qui avaient encore cours à la période médiévale et surtout à la Renaissance, période de la grande chasse aux sorcières de l'Europe. Car contrairement aux idées reçues, ce n'est pas au Moyen-Âge que l'on brûlait des sorcières, mais bel et bien à la Renaissance. Donc, c'est tout un panel de traditions, de rites et de coutumes qui furent catalogués rétroactivement comme étant de la sorcellerie. Alors, avec ces trois angles d'observation, nous tenterons de comprendre quelles furent réellement les croyances et les pratiques de celles que l'on nommait les sorcières. C'est à la toute fin du Moyen-Âge que l'épidémie ou l'hystérie de la sorcellerie va frapper l'Europe. L'un des premiers textes qui en pose le cadre est le Directorium Inquisitorium de Nicolas Emmerich, publié au XIVe siècle. Il s'agit d'un manuel pratique destiné aux inquisiteurs et qui définit les hérésies, précise les compétences juridiques et décrit la conduite de l'enquête et le procès. Emmerich s'appuie sur l'expérience inquisitoriale qui avait eu cours en Languedoc et en Aragon, ainsi que sur les traités antérieurs comme ceux de Bernard Guy, célèbre pour son apparition dans le livre et le film Le Nom de la Rose. Dans cet ouvrage de Nicolas Emmerich, ce dernier regroupe sorcellerie, divination et invocation des démons dans l'horizon de l'hérésie dès lors qu'un pacte, explicite ou tacite, est contracté avec un démon, soit le crime le plus important aux yeux de l'Église catholique. À ce stade, on rencontre déjà quelques procès disparates pour crimes de sorcellerie ou pratiques magiques, mais ceci reste souvent confondu avec des affaires d'hérésie ou de superstition. L'Inquisition médiévale se concentre encore pleinement sur les dissidences religieuses telles que les cathares, les vaudois ou encore les bégouins. La véritable grande chasse aux sorcières, telle qu'on l'entend, commence seulement au début du XVe siècle, avec l'émergence des premiers procès collectifs, notamment ceux du Valais, à partir de l'année 1428. C'est à ce moment que s'affirme une nouvelle perception. La magie est désormais indissociable d'un pacte avec le diable et du sabbat, notion qui cristallise la peur d'une hérésie organisée et collective. Cette logique va trouver son expression la plus brutale avec la publication du Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, en 1487. Le texte s'inscrit dans un contexte où la sorcellerie n'est plus vue comme étant une superstition héritière d'un paganisme persistant, mais comme une hérésie collective à éradiquer. Le manuel propose aux juges une répression judiciaire systématique avec des méthodes drastiques. La dénonciation est encouragée, il y a l'usage généralisé de la torture pour obtenir des aveux, l'excommunication, la confiscation des biens, les peines de prison et la remise au bras séculier pour l'exécution, le plus souvent sur le bûcher. Le Malleus Maleficarum affirme que les sorcières tiennent leur pouvoir d'un pacte volontaire conclu avec le diable et que ces dernières lui vouent un culte. Le texte insiste sur la supposée vulnérabilité des femmes jugées plus enclines à la sorcellerie, en raison de leur faiblesse intellectuelle et morale, de leur concupiscence et de leur rôle présumé d'instrument privilégié pour le malin. Charmant, vous en conviendrez. Alors, ce manuel, notoirement misogyne, fut un véritable best-seller pour l'époque. Il fut réimprimé plus de 30 fois entre 1487 et 1669, principalement dans l'espace germanique, mais également en Italie et en France. Le Malleus Maleficarum va devenir l'un des principaux vecteurs de diffusion des idées qui vont alimenter la grande chasse aux sorcières de l'Europe moderne. Il fut, indirectement ou directement, responsable de plusieurs milliers de victimes et principalement des femmes. Pour comprendre l'ampleur des procès de sorcellerie, il faut s'arrêter sur l'univers des croyances et des accusations qui entouraient les prétendus sorciers. Les démonologues, qu'ils soient juges, théologiens ou inquisiteurs, ont construit un portrait terrifiant de la sorcière, véritable apôtre du culte diabolique. Au cœur de ce système de croyances supposées se trouve en premier lieu le contrat avec le diable. La sorcière, toujours d'après les démonologues, renonçait à la foi chrétienne et livrait son âme au démon en échange de pouvoirs surnaturels, lui conférant des moyens d'agir contre la société des hommes. Ce pacte pouvait être scellé avec une signature de sang, une relation sexuelle avec le démon ou un sacrifice sanglant, la plupart du temps des enfants, mais elle constituait toujours une trahison envers Dieu et l'Église. L'autre élément central était le sabbat, une grande réunion nocturne à laquelle les sorcières se rendaient en chevauchant des balais ou en enduisant leur corps d'un onguent magique censé leur permettre de voler dans les airs. Lors du sabbat, les sorcières adoraient le diable sous la forme d'un bouc, encore appelé Maître Léonard. Elles célébraient une cérémonie parodique de la messe, se livraient à des orgies et conspiraient pour nuire au monde chrétien. Plusieurs auteurs, tels que Jean Baudin, Henri Boguet ou encore Pierre de Lancre, décrivent ces rassemblements avec une minutie glaçante, souvent inspirée par des aveux arrachés sous la torture. En plus de cela, les sorcières étaient accusées d'une multitude de maléfices, déclencher des tempêtes ou la grêle, ruiner les récoltes, empoisonner les pluies, rendre les hommes impuissants, provoquer la stérilité des femmes, transmettre des maladies ou encore faire mourir les enfants et le bétail. Ces pouvoirs maléfiques pouvaient s'exercer via des potions, des poudres, des incantations, le mauvais œil, ou par simplement la seule volonté de nuire grâce à l'aide des démons. À ces accusations s'ajoutait l'utilisation de l'art de la divination, astrologie, chiromancie, géomancie, qui était assimilée elle aussi à des activités contre nature. Pire encore, certaines formes de médecine des campagnes, les remèdes secrets, les onguents et les filtres utilisés par les guérisseuses étaient interprétés comme étant des instruments de sorcellerie. Un autre thème récurrent dans les procès était évidemment celui de la sexualité. De nombreux démonologues affirmaient que les sorcières s'unissaient charnellement aux démons, ce qui renforçait leur lien avec le diable. Enfin, elles utilisaient des charmes d'amour pour corrompre les hommes, les détourner de leurs femmes, et ce motif a hanté toute la littérature démonologique, relevant surtout une obsession de l'époque pour la sexualité féminine perçue comme un terrain privilégié pour l'action du démon, et qui traduit peut-être quelques pathologies de la part des juges et des inquisiteurs. Alors, depuis le Malleus Maleficarum, l'idée s'était imposée que les femmes étaient plus enclines à succomber aux séductions du démon. Par exemple, des tableaux de l'inconstance des mauvais anges et démons, écrits par Pierre de Lancre, affirmaient que les femmes basques étaient naturellement portées à la superstition et à l'inconstance, ce qui expliquerait, selon lui, l'ampleur des procès dans la région. Ainsi, se forme le tableau d'une supposée religion des sorcières, basée sur le culte du diable et les activités magiques contre nature aux yeux de la morale chrétienne de l'époque. Le problème, c'est qu'aucun des démonologues n'a jamais assisté au prétendu sabbat des sorcières, et que les aveux collectés sous la torture furent largement orientés suivant les questions posées par les inquisiteurs. Ainsi, nous ne sommes pas face à une réalité historique, mais bien à une construction savante forgée par les démonologues et installée dans la société via la peur et l'hystérie collective. Cette vision du sabbat et de la sorcière, répétée et amplifiée à travers les procès et les traités, va créer l'illusion d'un vaste complot diabolique qui justifia des persécutions sans précédent. Heureusement, dès le XVIe siècle, alors que les bûchers se multiplient à travers l'Europe et que l'imaginaire démonologique est bien implanté, quelques voix s'élèvent timidement pour dénoncer les excès et remettre en question la validité des accusations. L'un des premiers à dénoncer cela fut le médecin et humaniste Jean Weir. À noter que c'était également le disciple du célèbre occultiste et médecin Henri Corneille Agrippa de Neuteuchâtel. Jean Weir a publié en 1563 son traité De Praegis Daemonium ou des illusions du démon. Dans cet ouvrage, Weir développe une thèse novatrice pour son temps. Selon lui, la plupart des femmes accusées de sorcellerie ne sont pas de véritables servantes du diable, mais des personnes en marge de la société, pauvres, souvent âgées ou malades, victimes d'illusions ou d'hallucinations. Pour cet auteur, les récits de vols nocturnes, de sabbats ou de pactes démoniaques ne sont pas de véritables actes de sorcellerie, mais bel et bien des prestiges diaboliques, autrement dit une tromperie des sens. Cette interprétation change la perspective. Là où les démonologues voyaient une conspiration organisée contre Dieu et la société chrétienne, Weir dénonçait surtout des individus fragiles trompés par leur propre faiblesse psychique ou par les illusions du démon. Condamner ces femmes au bûcher revenait donc, selon lui, à exécuter des innocentes souffrant de troubles mentaux plutôt qu'à juger de véritables criminels. En proposant cette lecture, Jean Weir annonçait ce qu'on pourra appeler une approche proto-psychologique de la sorcellerie. Il ne niait pas l'existence du diable, ni son pouvoir d'illusion, mais refusait d'y voir la preuve tangible d'une collusion volontaire entre les accusés et les puissances infernales. Alors, à cette époque, sa voix, bien qu'isolée, ouvrait la première brèche dans les discours communs, dénonçant l'injustice des procès et surtout des méthodes implacables et terrifiantes, avouons-le. Il faudra néanmoins attendre le XVIIIe siècle pour que cessent véritablement les procès pour crimes de sorcellerie. Déjà, la monarchie française avait publié en 1682 une déclaration qui requalifiait le crime de sorcellerie en supercherie ou en charlatanisme, sauf crimes connexes tels que l'empoisonnement ou les sacrilèges, ce qui tarit rapidement les bûchers sur le territoire. Dans les États britanniques, le Witchcraft Act de 1736 abroge les lois antérieures, on ne punit plus la magie réelle, mais la prétention frauduleuse à des pouvoirs surnaturels. En somme, on condamne le charlatanisme. Dans les principautés du Saint-Empire germanique, des ordonnances du début du XVIIIe siècle vont restreindre la torture, exigeant des preuves matérielles, et de facto, rendant les condamnations pour sorcellerie quasi impossibles. Mais bien que les bûchers aient cessé, l'imaginaire de la sorcière et du sabbat a laissé des traces durables dans la société. Encore de nos jours, le mot sorcellerie est toujours associé à des pratiques maléfiques et contre-nature. Mais au final, les procès en sorcellerie et les ouvrages des démonologues ne nous informent pas véritablement sur en quoi croyaient les sorcières. D'ailleurs, la question serait même de savoir si les sorcières, au-delà du mythe, ont réellement existé. Et si tel est le cas, quelles étaient réellement leurs croyances ? Lorsque l'on passe des traités démonologiques à la sorcellerie telle qu'elle est revendiquée de nos jours par les Wiccans et autres adeptes du néopaganisme, on change complètement de registre. Les adeptes de la Wicca reformulent la figure de la sorcière non plus comme une criminelle au service du diable, mais comme étant la prêtresse d'un culte de la nature centré sur deux pôles divins complémentaires, la déesse et le dieu Cornu. Alors, bien qu'il existe de nombreuses tendances au sein de la Wicca, les différentes branches partagent globalement toute une même architecture théologique. Le premier concept est celui d'un dualisme centré sur un principe féminin et un principe masculin, souvent compris comme étant les deux faces d'une même réalité ultime, d'où la formule fréquemment citée « Ne connais-tu pas le mystère qui dit que tous les dieux sont un seul dieu et que toutes les déesses sont une seule déesse et qu'il n'y a qu'un seul initiateur ?» Cette phrase est tirée du livre de Dion Fortune, The Sea Princess, en 1938. La déesse y est multiple, mère, amante, souveraine, parfois présentée sous la forme d'une triple déesse, jeune fille, mère et aïeul, et associée au cycle lunaire et à la fertilité. Son pendant masculin est le dieu Cornu. Celui-ci reprend les traits des anciennes divinités sylvestres et il n'est pas le diable, mais une hypostase de la vitalité naturelle qui incarne la vigueur saisonnière, la sexualité, la mort et la renaissance. Ces deux entités sont envisagées comme étant des archétypes que l'on peut nommer par divers noms suivant les sensibilités culturelles et les goûts personnels. Par exemple, Pan ou Kernunos pour le dieu Cornu, et Brigitte, Dana ou Déméter pour la déesse. En soi, les Wiccans vénèrent une multitude de divinités, polythéistes, si ce n'est que ces derniers sont toujours des avatars ou des émanations du dieu et de la déesse dans une approche panthéiste. Cette approche théologique s'inscrit dans une cyclologie cosmologique. L'année rituelle est scandée par 8 sabbats solaires, la Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lognasad et enfin Mabon, auxquels vont s'ajouter les Esba ou les célébrations lunaires si vous préférez. Les mythes et les fêtes saisonnières racontent la naissance, le mariage cosmique ou la hiérogamie, puis la mort et la renaissance dans un cycle de recommencement perpétuel. Il est important de préciser que les sabbats des Wiccans ne sont pas liés au satanisme. Ce sont des rites d'harmonisation avec les cycles naturels. En ce sens, nombre de Wiccans croient en la réincarnation de la même façon que les modèles cyclologiques globaux des saisons et des divinités. Sur le plan de la morale et de l'éthique, Doreen Valiant a formulé une maxime devenue emblématique de la Wicca. Tant que tu ne nuis à personne, fais ce que tu veux. Cette règle de conduite, connue sous le nom de Wiccan Rede, s'inspire directement de la loi de Téléma, énoncée au début du XXe siècle par l'occultiste sulfureux Aleister Crowley. Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. À cette première maxime s'ajoute un second principe, la loi du triple retour, selon laquelle toute action magique, qu'elle soit bénéfique ou maléfique, revient à son auteur de manière amplifiée. Au niveau de la pratique, les rituels Wiccans suivent une structure relativement codifiée qui va varier évidemment suivant les différentes lignées. Mais globalement, au centre se trouve le cercle magique tracé pour délimiter l'espace sacré et consacré par l'invocation des quatre directions et de leurs éléments associés. L'air à l'est, le feu au sud, l'eau à l'ouest et la terre au nord. L'autel, installé au cœur du cercle, va accueillir les instruments rituels, notamment l'atamé, la baguette magique, le pentacle, la boline et encore le calice, ainsi que des offrandes représentant le dieu et la déesse. Vient ensuite l'invocation à proprement parler. L'énergie est élevée par des chants, des danses circulaires et des visualisations, et des incantations bien entendu, jusqu'à former un cône de pouvoir dirigé vers un objectif précis tel que la guérison, la protection ou encore la prospérité. Notez également que dans les grandes cérémonies des Wiccans, il y a en général la célébration de l'union sacrée, la hiérogamie, entre les deux principes divins, masculin et féminin. En général, cette union sacrée est célébrée de façon symbolique et non pas pratique, mais il s'inspire néanmoins de rites païens beaucoup plus anciens où la hiérogamie était manifestée par l'union tout à fait matérielle du grand prêtre et de la grande prêtresse. Dans tous les cas, toutes les cérémonies se terminent avec la répartition des offrandes et le partage des gâteaux et du vin entre les adeptes. Au niveau vestimentaire, selon les traditions et les préférences des différents courants de la Wicca, les pratiquants peuvent officier nus ou encore en robe rituelle. Les choix vont dépendre des spécificités, mais le but est toujours de se dépouiller du monde profane pour entrer dans un état de pureté dans l'espace sacré. Au-delà des célébrations publiques et collectives, il ne faut pas oublier que la Wicca se veut avant tout un système de magie opérative qui prétend descendre de la sorcellerie des campagnes. En ce sens, la magie des Wiccans repose sur l'adaptation aux cycles lunaires, solaires et saisonniers, les correspondances naturelles et l'usage des herbes, des encens, des pierres, des couleurs, etc., etc., et des talismans. La magie des Wiccans ne cherche pas à effectuer un pacte avec une puissance extérieure, mais bien à provoquer une coopération avec les forces invisibles de la nature, et parfois avec des divinités envisagées comme étant des alliés naturels. À ce stade, il faut préciser que la Wicca n'est pas une survivance directe d'un ancien culte européen multimillénaire, mais une tradition religieuse moderne apparue seulement au XXe siècle. Avant sa naissance formelle sous la plume de Gerald Gardner, certains auteurs ont nourri l'idée qu'il existait un culte secret des sorcières ayant traversé les siècles pour échapper à l'Inquisition. Ainsi, déjà, Charles G. Leland publie en 1899 Aradia ou l'Évangile des sorcières, où il présente une prétendue tradition sorcière italienne qui aurait subsisté dans l'ombre. Par la suite, c'est l'anthropologue britannique Margaret Murray qui va défendre l'hypothèse qu'il existait un culte des sorcières dans l'Europe occidentale. Selon elle, les femmes et les hommes accusés de sorcellerie lors des procès des 14 au 18e siècle étaient en réalité les membres survivants d'une antique religion païenne organisée, transmise clandestinement jusqu'à l'époque moderne. Cette thèse a profondément marqué l'imaginaire des Wiccans. Séduisante par sa cohérence apparente, elle présente cependant plusieurs limites. Le premier obstacle est le manque de sources fiables sur les pratiques anciennes. Les textes des démonologues décrivent des sabbats et des rituels largement fantasmés, sans véritable fondement historique, ce qui rend très difficile l'identification des pratiques réelles des sorcières médiévales et de la Renaissance. Le second problème réside dans le terme même de sorcellerie. Notion complexe et floue, dont le contenu varie suivant les époques et les contextes. Un point sur lequel nous reviendrons plus en détail dans la troisième partie de cette vidéo. Enfin, troisième problème, et pas des moindres, la Wicca s'est voulue l'héritière d'un paganisme européen pré-chrétien. Mais là aussi, il y a un gros problème, car nous manquons de sources sur ces cultes pré-chrétiens, puisque nous manquons de données archéologiques et historiques pour en définir les contours précis. À ce stade, il reste donc très hasardeux d'affirmer que les croyances et les rituels des Wiccans correspondraient réellement à ceux du paganisme antique. La Wicca se présente moins comme la survivance d'un culte ancien que comme une synthèse moderne. Elle combine le folklore et les coutumes saisonnières, la magie populaire transmise par les grimoires, l'ésotérisme du début du XXe siècle et une vision romantique du paganisme ancien. Sa structure rituelle emprunte de manière très libre à l'occultisme du XIXe siècle, XXe siècle, notamment à la Golden Dawn, à la franc-maçonnerie, à la théosophie ainsi qu'à la pensée d'Aleister Crowley. Le tout se construit en rupture avec l'horizon mystique chrétien remplacé par une spiritualité d'inspiration néo-païenne. Alors ce mouvement s'inscrit plus largement dans la tendance plus large du XXe siècle visant à réactiver les religions pré-chrétiennes comme on l'observe par exemple avec le mouvement folkish en Allemagne. En ce sens, la Wicca appartient pleinement à ces tendances modernes de reconstruction des paganismes anciens tels qu'on le nommera néo-paganisme. Le terme même de Wicca est popularisé dans les années 1950 par Gerald Gardner. Lui-même, très proche de l'occultiste Aleister Crowley, est membre de l'OTO, l'Ordo Templi Orientis. C'est Gardner qui va mettre en place la première structure rituelle, cercle d'invocation, degré d'initiation, livre des ombres, et il est secondé dans sa tâche par Doreen Valiant qui rédige une partie de la liturgie dont la célèbre charge de la déesse. Par la suite, à la fin des années 60, apparaît à Londres une seconde lignée, l'Alexandrianis, fondée par Alex et Maxine Sand. Eux-mêmes, proches de la tradition gardénienne, mais ils s'en distinguent par un recours plus marqué à la magie cérémonielle ainsi que par l'intégration d'éléments de la Golden Dawn et de la cabale de mystique. À partir de ces deux courants fondateurs vont apparaître tout un tas de lignées qui présentent un visage extrêmement pluriel à la Wicca. Pour citer par exemple dans les années 1970, Susanna Budapest qui développe la Wicca dianique centrée sur le culte exclusif de la déesse et sur des coven uniquement féminins. Parallèlement, on pourra citer le courant Reclaiming, popularisé par Starhawks à San Francisco, qui va associer les pratiques de magie Wiccan avec l'écologie spirituelle et surtout le militantisme politique. Enfin, beaucoup plus important, à partir des années 80-90, la Wicca va connaître un essor mondial grâce aux ouvrages de Scott Cunning. Ce dernier va populariser une pratique éclectique, solitaire, libérée des coven ou des groupes si vous préférez, et des lignées initiatiques. Cette approche est accessible et adaptable et va contribuer à faire de la Wicca une voie spirituelle individuelle centrée sur la nature, la déesse et les dieux cornus, mais sans aucune exigence formelle. En gros, avec ce système, vous pouvez vous initier tout seul, par vous-même, établir votre propre dédication à la déesse et aux dieux cornus. Pour conclure, la Wicca doit être comprise comme étant une nouvelle religion, un courant néo-païen inscrit dans le contexte plus large du New Age. Marqué évidemment par une forte dimension rituelle et magique, mais sans lien direct établi avec la sorcellerie médiévale ou antique. Il convient également de souligner que tous les praticiens de la sorcellerie au XXIe siècle ne se réclament pas tous de la Wicca. Toutefois, celle-ci constitue le socle commun sur lequel s'est développée une véritable néo-sorcellerie contemporaine. Parler d'un culte des sorcières suppose d'abord de clarifier les termes. Le mot sorcellerie dérive de sorcier, dont l'étymologie renvoie au latin certiarus ou sortilegu, le diseur de sorts, celui qui interroge le destin et prétend agir sur lui. Dans les sources chrétiennes, le terme apparaît dès 589 au Concile de Narbonne. Il devient alors une étiquette péjorative et politique destinée à stigmatiser les vieilles coutumes, les sages-femmes, les herboristes, les guérisseurs ou encore les barreurs de feu, les sorciers, les astrologues et les devins. Notez que toutes ces pratiques étaient déjà surveillées dans le cadre du judaïsme antique et encadrées dans le monde gréco-romain. Dans l'Antiquité, la figure de la sorcière était déjà un motif littéraire important. Les plus célèbres sont Circé et Médée, dotés de pouvoirs extraordinaires, potions, métamorphoses, maîtrise du climat, charme amoureux et nécromancie. Toutes deux se rapprochent davantage d'ailleurs des divinités antiques que de simples femmes mortelles. D'ailleurs, les pouvoirs que les démonologues attribueront plus tard aux sorcières lors des procès des 14 au 18e siècle sont déjà ceux que la littérature antique met en scène à travers Circé, Médée et quelques autres personnages. Plus largement, dans le monde gréco-romain, la sorcière ou la magicienne est une femme dotée de pouvoirs surnaturels, mais désignée selon ses spécialités et pas spécifiquement par le terme de sorcellerie. Ainsi, on va trouver les devineresses, les magiciennes, les nécromanciennes, les pythonistes ou encore les guérisseuses. Chez Homère, par exemple, Circé n'est pas appelée sorcière, mais polypharmakos kirké, Circé aux nombreux filtres et remèdes. Le christianisme médiéval va unifier ces figures disparates en un seul prototype. Le sorcier ou la sorcière devient celui ou celle qui a pactisé avec le diable, qui lance des maléfices et participe à des assemblées nocturnes, les sabbats. Bien entendu, ce schéma ne se retrouve pas dans l'Antiquité, où l'on ne connaît pas la figure du diable, mais les daimons, des esprits intermédiaires entre le monde des dieux et celui des hommes. C'est par eux, les daimons, que les sorciers, sorcières, magiciennes de l'Antiquité agissaient en bien comme en mal. C'est un art qui est comparable sur de nombreux aspects aux pratiques chamaniques, entrer en relation avec des forces invisibles pour soigner, protéger, favoriser la fertilité, deviner le destin ou neutraliser un mal, ou bien évidemment, le provoquer. Alors, devant cet ensemble de pratiques disparates, posons la question. Y a-t-il une religion des sorcières ? Eh bien, à proprement parler, il n'existe pas une religion unique pour les sorcières. Historiquement, la sorcellerie renvoie plutôt à un ensemble de techniques rituelles et de savoirs populaires. Ses racines plongent dans les formes religieuses les plus anciennes, telles que l'animisme, le chamanisme ou encore le totémisme. Ces trois termes renvoient aux plus anciennes formes religieuses de l'humanité. Et de fait, la sorcellerie est indatable quant à ses origines. On ne peut pas établir de point de commencement. Elle débute en même temps que les premières formes spirituelles de l'humanité. S'il existait le prêtre, il existait la sorcière ou le sorcier. Pour aller plus loin, les sorcières ou sorciers partagent en général le système religieux de leur époque, tout en prenant des libertés, notamment en conservant toujours le substrat animiste des forces invisibles de la nature avec lequel il convient de travailler. D'où il nous faut étudier les fondements de ces traditions. Dans l'animisme européen, le monde est habité, sources, bois, montagnes, champs et foyers sont peuplés de puissances locales, d'esprits des lieux et des esprits des ancêtres. Le chaman les sollicite pour éloigner la maladie, protéger les bêtes, obtenir des récoltes abondantes ou pour la naissance d'un enfant. À cet arrière-plan s'ajoute un vieux schéma cosmologique. Deux principes complémentaires, un pôle céleste fertilisant et un pôle tellurique maternel, dont l'union sacrée, la hiérogamie, rythme le cycle des saisons, germination, maturation, déclin et retour. De là, il procède à des fêtes saisonnières, solstice, équinoxe, moisson. Et en ce sens, nous retrouvons la même architecture symbolique que les images modernes de la Wicca, avec la grande déesse et les dieux cornus, ainsi que les 8 sabbats de l'année, basés sur le cycle des saisons. Par la suite, dans l'histoire de l'humanité, l'essor des religions monothéistes a relégué ces pratiques, tantôt comme superstition à corriger, tantôt comme œuvre diabolique, surtout à partir du XIVe siècle, qu'il convient d'éradiquer. Pourtant, beaucoup de ces pratiques ont persisté dans les campagnes, sous forme de rites agraires, de cultes de lieux sacrés ou encore de magie domestique, bénédiction, protection ou contre-envoûtement ou contre-sorcellerie. C'est en observant ces différentes survivances, plutôt qu'en postulant une église secrète des sorcières, qu'on va s'approcher au mieux de ce que peut être un culte des sorcières. Non pas une religion constituée, mais une pratique rituelle enracinée dans le paysage, le calendrier et la vie communautaire. Tout d'abord, un culte agraire, c'est une pratique cultuelle fondée sur le cycle des saisons, où l'on honore les divinités ou les grands esprits de la nature, sous des noms qui varient selon les époques et les régions, Déméter, Cérès, Brigide, Freya pour les déesses, ou encore Pan, Dionysos, Lug ou Freyr pour les dieux. Nombre de ces fêtes païennes, solstice, équinoxe, moisson, vendange, ont été reprises et intégrées dans le calendrier chrétien. Noël pour le solstice d'hiver, les feux de la Saint-Jean pour le solstice d'été, ou encore la Saint-Valentin en écho aux Lupercales romaines. Mais dans les villages, les anciens usages rituels ont souvent perduré, cohabitant avec le christianisme. On y offrait encore des dons symboliques, on dansait et chantait lors des banquets, et l'on pratiquait des rites de purification, de prospérité ou de guérison adaptés au moment de l'année. Dans tous les cas, les rites agraires survivants s'articulaient autour d'un syncrétisme entre paganisme et christianisme. Alors, voyons quelques exemples qui étaient encore actifs au cours des 15 et 16e siècles. Tout d'abord, dans le Frioul, en Italie, la confrérie des Benaventi se disait né coiffé, c'est-à-dire venu au monde avec une fine membrane du placenta sur la tête, signe de vocation. Les membres du clan des Benaventi affirmaient pouvoir partir en rêve, se projeter lors des quatre temps pour défendre la fécondité des champs armés de tiges de fenouil, où ils affrontaient les Malandanti, les adeptes du diable, qui était muni de tiges de sorgho. Lorsque les Belandanti l'emportaient lors du combat, eh bien, on aurait une bonne année, de bonnes récoltes, le blé et le vin en abondance. Mais s'il perdait le combat, c'était la famine et la sécheresse. Lorsque vont intervenir les premiers interrogatoires au XVIe siècle, les inquisiteurs seront scandalisés par les pratiques des Belandanti. Ils vont associer ces processions nocturnes, ces banquets de fécondité et ces batailles rituelles au sabbat des sorcières dans leur lecture imaginaire. Donc, nous allons assister à un basculement passant du garde champêtre bienveillant au sorcier maléfique adepte du diable. Dans la même veine que les Belandanti en Italie, nous allons retrouver en Roumanie la confrérie des Calosari ou la confrérie des hommes-chevaux. Un groupe exclusivement masculin qui était associé à la fête de la Pentecôte, moment où ils prêtaient serment de silence, de cohésion et de respecter plusieurs interdits alimentaires. Leur rituel s'ouvrait le samedi soir, hors du village, en un lieu réputé habité par les Lel, des esprits féminins de la nature redoutés pour leur caractère malveillant. Dans le silence, on dresse alors le drapeau, constitué d'ail, d'absinthe et d'orge de blé vert, le tout enveloppé d'une toile blanche, symbole de la puissance magique et de la solidarité du groupe. De là, les Calosari vont effectuer des rituels, des danses sacrées, des invocations. Et à la suite de cela, ils vont passer dans les maisons du village afin de bénir les habitations, mais également les troupeaux. Tout ceci, encore une fois, avec des danses spécifiques censées chasser les lélés, les esprits maléfiques, afin d'exorciser le village, les personnes et le bétail. En Roumanie, ils sont considérés comme les gardiens de la prospérité, mais vu de l'extérieur, leurs pratiques ont souvent éveillé la méfiance des autorités religieuses, parfois assimilées à de la sorcellerie et au sabbat des sorcières. Enfin, en troisième exemple, nous pouvons citer les Taltoches de Roumanie. Là encore, à l'image des Belandanti en Italie, les enfants qui vont devenir taltoches, c'est-à-dire chamans d'une certaine façon, seront marqués à la naissance, soit par la membrane amniotique, soit par une marque spécifique, tache de vin ou autre signe sur leur corps. Adultes, ils ont la capacité d'entrer en transe et de voyager en esprit et livrer des batailles d'orage contre les esprits nuisibles afin de détourner la grêle et assurer l'abondance. Là, on est toujours sur le même schéma narratif. Il y a l'idée d'un combat entre les forces du bien et du mal, de retrouver l'harmonie afin de pouvoir amener la félicité et la prospérité. Évidemment, outre ces affrontements symboliques ou réels, les Taltos avaient également le rôle de prêtres dans la communauté. Ils soignaient les hommes et le bétail, ils conseillaient la communauté sur le moment des semailles, ils faisaient des prévisions météorologiques, de la divination. Mais évidemment, lorsque la justice moderne s'est mise à traquer les sorciers, réputés au service du diable, eh bien la figure du Taltoche, elle aussi, a été bousculée du côté de la suspicion de sorcellerie, alors même que leur fonction première était de protéger les récoltes et d'assurer la prospérité collective. Ensemble, ces trois traditions, Belandanti, Calosari et Taltos, tous en Europe, relèvent d'une même logique cultuelle. La vocation particulière, souvent marquée dès la naissance ou transmise par filiation, des capacités de transe ou de projection de l'esprit, l'usage d'armes symboliques et un rôle de protection des récoltes et des personnes face aux esprits malveillants. Ces pratiques, qui étaient enracinées dans la culture paysanne, seront plus tard réinterprétées par les inquisiteurs comme des preuves de sabbat, sans toutefois avoir directement inspiré le mythe démonologique tel qu'il fut fixé à l'origine. Car ce sont bien ces pratiques qui ont été considérées comme sabbat et non pas ces pratiques qui ont inspiré l'image du sabbat. Alors voyons à présent, de plus près, les véritables célébrations qui ont nourri l'imaginaire du sabbat et ce qui s'y déroulait réellement au-delà des fantasmes démonologiques. Si l'on quitte le prisme démonologique pour revenir aux pratiques réelles, observables des prétendues sorcières, on va retrouver surtout des fêtes de seuil, fin d'automne, entrée de mai, solstice, équinoxe, etc. Ce sont, à ces moments-là, des rassemblements communautaires, des feux sacrés, des veillées, des danses et des jeux de divination. On pratique des rites de protection, de fertilité, des mascarades rituelles, des dévotions aux divinités ou aux esprits. Il existe trois cas qui nous permettent d'illustrer ces célébrations populaires et surtout l'interprétation démoniaque qu'en feront les inquisiteurs. La première illustration se trouve dans le monde celtique médiéval. C'est la Samhain, la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Elle marque l'entrée dans la moitié sombre de l'année. En Irlande et en Écosse, c'est une phase rituelle importante. On éteint et on rallume les feux communautaires. On fait passer le bétail entre deux brasiers pour assurer la protection et on pratique la divination domestique concernant l'amour, la santé, les récoltes et l'on veille tard le soir en racontant des récits de revenants et de fées. La christianisation a superposé à cette fête les célébrations de la Toussaint et du Jour des Morts, sans pour autant faire disparaître les anciens usages. Du point de vue des communautés rurales, Samhain constituait une manière de gérer l'incertitude liée à l'hiver, mortalité accrue, diminution des ressources, nécessité de protection face aux forces de l'invisible. Mais pour les tribunaux chrétiens, ces masques d'animaux, ces récits d'esprits et ces rites autour du feu sacré ont été requalifiés en indice d'un supposé sabbat diabolique. Autre exemple, dans l'ère germanique et alpine, nous avons la Walpurgisnacht, la nuit de Walpurgis, fêtée entre le 30 avril et le 1er mai. Cette fois-ci, elle ouvre la belle saison. On y allume des feux purificateurs et des processions avec des mascarades, des danses qui visent à protéger les champs et les troupeaux. Les sources populaires mentionnent des charivaris, des déguisements et des courses parfois en état de transe. Bien que placée sous le patronage de Sainte Walburg, la fête prolonge un héritage païen et agraire. Si l'imaginaire moderne en a fait la nuit des sorcières en raison de son caractère transgressif, la réalité historique renvoie surtout à des réunions villageoises autour du feu destinées à relancer symboliquement l'année agricole. Enfin, troisième exemple, il convient de citer l'Akelar issu de la culture basque, qui a fortement nourri et peut-être même inspiré directement l'image du sabbat des sorcières pour les démonologues. Le terme vient du basque Aker, le bouc, et l'art, la clairière ou le pâturage. Dans le folklore local, les sorginak, les sorcières en basque, se réunissaient de nuit, souvent le vendredi, en des lieux isolés appelés Akela, le champ des sorcières, ou encore le pâturage de la perdrix. On s'y rend en procession, discrètement, on délimite l'espace, cercle de pierre, feu central, puis la veillée suit un enchaînement simple. Allumage du feu rituel, chant, danse en rond autour du feu, au rythme des instruments locaux, tambourins, percussions, formule de protection pour les maisons, les troupeaux et les récoltes, et partage d'un repas, pain, le vin, les produits laitiers, etc. On y fait des offrandes qui peuvent être laissées à un élément du paysage tenu pour protecteur, un arbre sacré, un rocher, une source magique, et l'on ranime le feu à l'aube comme signe du renouveau. La figure d'Aker Belz, le bouc noir, relève ici d'une symbolique pastorale. On y invoque la vitalité et la garde du cheptel, non pas un culte diabolique. En ce sens, l'Akelar s'entend d'abord comme étant une fête rituelle communautaire, marquer le temps, accorder la communauté au cycle saisonnier, bénir l'année à venir par des gestes sacrés. De plus, bien au-delà de l'Akelar, notons que nous sommes au cœur de la mythologie basque, dont les rites étaient encore largement actifs lors des périodes médiévales et de la Renaissance, d'où le nombre important d'accusations de sorcellerie dans cette région. Au final, la Samhain, Walpurgisnacht ou encore l'Akelar renvoient à des célébrations rituelles du calendrier agraire, des moments de sociabilité nocturne, feu sacré, veillée comptée, danse rituelle, divination et rites de protection. Il ne fait aucun doute que ces pratiques forment un ensemble de manifestations de survivance païenne au sein d'un monde chrétien. Maintenant, il nous reste à voir quelles sont les pratiques personnelles des individus qui fréquentaient ces cercles et ces rites agraires. À côté des fêtes, la vie rurale du quotidien regorge de techniques magiques. Gestes protecteurs, mots de pouvoir, objets enchantés et recettes secrètes transmises de femme en femme dans les maisons. Il ne s'agit pas ici d'un culte organisé, mais d'une boîte à outils du quotidien pour négocier l'incertitude, sur le plan de la santé, de la météo, le bétail, la récolte et même l'amour. Ici, le religieux et le magique s'entremêlent en permanence. À la maison, on protège l'entrée et les lits avec du sel, un petit morceau de fer, un fer à cheval, un rameau de sorbier ou d'aubépine. On trace aussi un petit signe, croix ou roue, sur les pierres du foyer ou sur l'armoire à pain. Cela ferme symboliquement la maison contre les valeurs et les mauvais esprits. Pour le bétail et les récoltes, on nettoie rituellement les étables et on fait passer les bêtes dans la fumée des feux de la Saint-Jean. On leur donne au premier pâturage du laisse-aller ou béni et on sonne les cloches quand l'orage menace. Côté santé, remèdes et prières vont de pair. On porte une amulette au cou et on chuchote des mots contre le mal de dents. Les rebouteux et leveurs de sorts coupent le mal avec différents accessoires. La divination, elle aussi, est courante. On utilise une Bible pour décider d'une question, un miroir ou un bol d'eau. Et en cas de conflit, on préfère le contre-charme, une corde à nœud, une bouteille de sort. Bien sûr, il existe aussi des pratiques maléfiques. Jeter le mauvais œil, gâter le lait, nouer l'aiguillette, ou encore blesser à distance au moyen de poupées, telles les poupées vaudou, les dagides et les voultes, avec des formules secrètes d'incantation pour appeler les esprits mauvais. Les tribunaux vont s'en emparer volontiers, bien qu'ils ne constituent que l'une des facettes de l'arsenal du sorcier. Tout ceci est un inventaire de pratiques disparates où le christianisme, le paganisme et la superstition se mélangent allègrement. L'ancienne fée de la source magique à proximité du village que l'on sollicitait pour la santé devient la Vierge Marie. L'ancien menhir où l'on invoquait Kernunos pour avoir un bel enfant devient le Christ. Les noms changent, mais les rites et les traditions restent. Nous arrivons à la fin de notre enquête sur les croyances des sorcières et quel bilan pouvons-nous dresser ? Premièrement, le culte diabolique organisé autour du sabbat n'a proprement jamais existé. S'il est possible que des individus isolés et même des groupes aient pu vouer un culte au diable au sens satanisme, ce ne fut pas dans les proportions que présentent les inquisiteurs et cela n'avait dans tous les cas aucun rapport avec la sorcellerie populaire ni avec les rites agraires du Moyen-Âge et de la Renaissance. Pour ce qui est de la Wicca et de ses revendications d'être un héritage de la sorcellerie médiévale, cela ne tient pas sur un plan historique. Cependant, force est de constater que les concepts théologiques de la Wicca sont très proches des anciennes croyances animistes. L'idée de la grande déesse et du dieu cornu est parfaitement conforme à la perception cyclologique de la mort et de la renaissance et d'union hiérogamique des anciens cultes païens. En ce sens, la Wicca est une réactualisation moderne des croyances animistes des temps les plus anciens. En revanche, la structure rituelle de la Wicca, principalement les deux lignées, gardénienne et alexandrienne, partage beaucoup plus de liens avec l'occultisme, la cabale et l'hermétisme qu'avec les anciens rites agraires. Notons encore que certaines évolutions de la Wicca tendent à se rapprocher des anciens cultes païens. Cela est possible grâce à une meilleure connaissance de l'histoire, de l'Antiquité et des pratiques cultuelles qui existaient réellement à ces époques. Enfin, pour répondre à la question, quelles furent les croyances réelles de celles qui furent dénommées sorcières ? Il n'y a pas de réponse simple et uniforme. Alors, voyons ce que l'on sait. La figure du bouc renvoie au diable dans l'imaginaire des démonologues. Mais sur le terrain, le symbole des cornes est d'abord pastoral et agraire, force vitale, fécondité du troupeau et des humains. Dans le Pays basque, l'Aker Belz est un protecteur du bétail, non un être maléfique. Le dieu cornu des Wiccans en reprend la symbolique, sous les noms du dieu celte Kernunos, bien que rien n'indique que ce nom ait été utilisé au Moyen-Âge. Pour la déesse, on ne trouve pas de culte unifié d'une grande déesse des sorcières au Moyen-Âge. Le paysage réel est en réalité un mélange de dévotions mariales, de saintes locales ou de déesses persistantes dans le folklore. Diane, Hérodiade, Dame Rabonde, Holda, Pejda dans l'espace germanique ou encore Marie au Pays Basque. La triple déesse des Wiccans est une synthèse contemporaine inspirée de la figure de Hécate, mais n'appartient pas spécifiquement aux sorcières médiévales. Enfin, l'un des éléments les plus importants dans l'imaginaire sorcier, ce sont les récits de vols nocturnes qui apparaissent dans les procès. Au-delà du fait que les réponses données sous la torture sont tout sauf fiables, il existe néanmoins une autre piste d'explication. Certains onguents, à base de solanacées, belladone, datura ou encore la mandragore, induisent des vertiges, la dissociation, des impressions de déplacement ou de flottement, d'où l'image du vol des sorciers. Ce type de substance fut utilisé lors des fêtes que nous avons mentionnées, les rites agraires, et peuvent induire un état de transe mystique et pourquoi pas de voyage astral, comme l'affirment les Benandanti du Frioul. Alors, au final, quelles furent les croyances des sorcières? Eh bien, il s'agit sans aucun doute d'une synthèse basée sur un héritage païen ou animiste, avec les lieux sacrés, les esprits de la nature et le culte des ancêtres, tout ceci fusionné au christianisme du quotidien, les prières, les saints et les pèlerinages. Leurs pratiques sont basées sur des rites saisonniers, héritiers de l'Antiquité tardive et réinterprétés dans le cadre médiéval. À cela s'ajoute une magie populaire du quotidien, une boîte à outils, où il n'existe pas de dogme, aucune unité, mais une mosaïque de croyances sans limitation. Les démonologues ont tenté de donner une cohérence globale aux faits de sorcellerie. Mais dans leur détestation et leur incompréhension, ils ont fini par inventer le mythe de la sorcière et du sabbat. Nous voici arrivés à la fin de cette enquête sur les croyances des sorcières d'hier et d'aujourd'hui. Alors, si vous avez apprécié cette émission, pensez, comme à l'habitude, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir à YouTube. Pensez aussi à partager l'émission afin de la faire découvrir et notez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais également les autres sujets que vous aimeriez me voir explorer dans de prochaines émissions. À noter que l'émission de ce jour est réalisée en partenariat avec un magazine, Infinity, dont le numéro 11 sort aujourd'hui avec un dossier central consacré à la sorcellerie. J'ai moi-même eu l'occasion de réaliser un article pour ce magazine, article qui est la base de la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Il y a également de nombreux autres articles, notamment un sur Naya, la sorcière de Bretagne, et plusieurs autres qui traitent de spiritualité, d'ésotérisme et des différentes pratiques de divination, de magie, de sorcellerie. Donc je vous invite très fortement à le découvrir si vous souhaitez en savoir plus. Me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, le meilleur pour vous et pour vos proches, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'histoire, la mythologie, les religions, l'ésotérisme ou encore les sciences occultes. À très bientôt.